Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Et vous, quelle journée particulière choisiriez-vous ? Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective, et c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Anne Simon. Bonjour Anne Simon.
Bonjour Zoé Varier.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Sur France Inter.
Anne Simon, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre de recherche sur les arts et le langage. Vous êtes entre autres une spécialiste de Marcel Proust et pendant 20 ans, vous avez travaillé sur le vivant et l'animalité en littérature. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la zoopoétique ?
Oui, après tout, c'est ça qu'on appelle la zoopoétique, le fait de travailler sur les animaux, plus généralement le vivant, les interactions entre les animaux et les arbres, l'atmosphère, etc. en littérature.
Alors il y a la littérature, mais aujourd'hui vous êtes arrivé avec un sac où il y avait une drôle de bestiole dessus. Et je crois savoir que chez vous, il y a des animaux partout.
Oui, alors il y a 2 grands primates que sont mes enfants, bien sûr. Et puis, il y a aussi d'autres animaux, effectivement, sur les murs, sur le canapé, des statues, des coussins qui représentent des éléphants qui volent. Qu'est-ce que j'ai encore ? Des portraits d'animaux qui portent des chapeaux, un poisson volant, des hirondelles qui sont accrochées au plafond, et puis des vraies araignées aussi.
Ah, ça c'est bien. Anne Simon, vous avez choisi comme journée particulière un jour du mois de juillet 2000. Ce jour-là, vous êtes tombée sur une citation de Marcel Proust qui vous a frappé alors que vous étiez dans le Finistère à Begmel.
Depuis 14 ans, je viens régulièrement ici à Begmel. Et c'est un petit coin qui me plaît. Begmel, pour ceux qui ne connaissent pas le breton comme moi, veut dire la pointe jaune, chacun le sait. Et non pas comme un Parisien qui m'a dit l'autre jour, qu'est-ce que ça veut dire Begmel ? Miel, je ne vois jamais d'abeilles. J'ai dit non, mais le climat est très doux. Et des abeilles, on pourrait en voir. D'ailleurs, il y a une très belle propriété qui s'appelle les abeilles à Begmel. Il y en a dans le temps. Et je dois dire, au bout de 14 ans, que c'est vraiment le paradis terrestre ici à Begmel. Et petit à petit, j'ai créé ici, dans le petit jardinet qui est devant la fenêtre de ma cuisine, une espèce de refuge pour les oiseaux. J'ai installé un schnack-bar pour être à la mode. Ils ont des graines de tournesol dont les mésanges sont très friandes et ils ont évidemment de l'eau. Et quand je viens à la période de Pâques, il fait tout de même un peu plus frais, j'y ajoute toujours quelques matières grasses dont ils sont très friands. Qu'on vienne donc en Bretagne, la Bretagne c'est un pays de santé. C'est un pays vivifiant et c'est un pays de liberté.
Voilà Anne Simon, c'est dit. Hein, c'était une archive de 1967, un habitant de Begmel. Mis à part le fait que Begmel est un coin de paradis, c'est aussi un endroit très important pour vous, Anne Simon.
Oui, et je suis très émue que cette archive date de 1967, puisque je suis née en 1967, et que c'est donc à partir de ce moment-là que je suis allée à Begmel, puisque mes parents louaient une maison et ensuite ont acheté une maison sur place, que mon oncle et ma tante habitaient aussi le coin. Et donc voilà, j'ai passé des décennies de vacances à Begmel.
Alors, quelle est cette citation, Anne Simon, sur laquelle vous êtes tombée ce jour-là, cet été-là, en 2000, à Begmel?
C'était une citation incroyable que je peux vous lire maintenant.
Oui, oui, avec plaisir.
C'est donc une citation qui est tirée de Jean Santeuil, un des brouillons de Proust, peut-être. Voilà.
Un des brouillons de la recherche.
Exactement. Nous nous penchons vers les choses comme si elles pouvaient nous donner la mer sa force inépuisable, le vent son souffle, l'air de mer sa pureté. Illusion qui enchaîne tant de malades dans les lieux sauvages où la nature est pleine de force. Tant de penseurs épuisés, là où il n'y a que des forces sans pensée. La mer aveugle, le vent sourd, les animaux qui ne pensent à rien, le boa qui digère pendant 10 jours, la marmotte qui dort un hiver, la baleine qui vit 300 ans, la mouette qui vole un mois sans se fatiguer et en 10 jours va au Pacifique. Et donc cette citation, elle est extraordinaire.
Pourquoi ?
Proust est très très jeune.
Ouais.
Il est à Begmail, où il est allé avec un ami, Reynaldo Hahn. On est en 1895, et donc il écrit sur le temps, à partir des animaux. C'est-à-dire qu'il commence à réfléchir sur la question de la temporalité, et il écrira plus tard donc ce livre qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Et donc, moi, ce qui m'a fascinée, c'était de, qui venait de finir ma thèse sur Proust, hein, je me suis dit, mais je suis passée à côté de ces bêtes hein, qui étaient là, qui m'attendaient à Begmail, dans Jean Santeuil, et qui nous parlaient de temporalités radicalement différentes des nôtres.
Donc, c'est à partir de là et à partir de cette citation que vous avez décidé, Anne Simon, d'aller chercher entre les lignes de la recherche du temps perdu de Marcel Proust, les animaux qui pouvaient y être nichés. Et qu'est-ce que vous avez déniché, justement ?
L'un des premiers animaux qui apparaît dans la recherche du temps perdu, eh bien, c'est une salamandre, c'est un poulet décapité, c'est une poule qui écrit, c'est un lapin qui crie, ce sont des poissons dans une assiette, c'est une mouette sur une vague, qu'une aristocrate d'ailleurs prend pour un albatros et dont se moque le narrateur. C'est une femme baleine, c'est un homme oiseau, c'est un homme insecte. On va trouver aussi des rats torturés, on va trouver des parents qui ressemblent à des rats, donc ça va bien ensemble. Des protozoaires, on trouve des têtards, on trouve des sangsues. Il y a aussi Monsieur d'Argencourt, qui est l'ennemi du narrateur, qui est comparé à une molle chrysalide plutôt vibratile que remuante. On trouve un poisson des profondeurs qui mange de la salade comme si c'était une aristocrate du Faubourg Saint-Germain. On trouve un triton qui évolue dans une baignoire à l'opéra. Et enfin, on trouve une guêpe qui meurt en nourrissant ses larves. Et en fait, ses larves, ce sont des livres. Et la guêpe, c'est Marcel Proust.
Mais c'est formidable, mais quand vous avez découvert tout ça, qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez réussi à faire cette liste que vous venez de me dire ?
Alors quand j'ai fait cette liste, ça n'a pas été compliqué, je me suis dit que j'allais déposer un programme de recherche au CNRS sur la question animale en littérature, sur les figures de l'animalité, sur le sauvage, etc. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai plongé en quelque sorte avec les grands monstres marins, avec les léviathans, avec les crocodiles, avec les bêtes de tout poil et de toute plume dans la littérature.
Alors pour commencer notre plongée zoopoétique dans la littérature, la diva péruvienne Ima Sumac, vous la connaissez ?
Ima Sumac.
Qu'on appelait aussi l'oiseau parce qu'elle chantait sur 3 octaves. Pom 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 pom. Oh! Ima Sumac chantait Birds. Vous la connaissez, Anne Simon, hein, avec cette exclamation avant le début du disque.
Alors, je la connais étrangement parce que, en fait, je la connais parce qu'il y avait un disque chez mes parents de Ima Sumac et je me souviens plus bien de la couverture de la pochette, mais je la trouvais d'une sensualité extraordinaire. Je crois que c'était un 78 tours, donc j'avais en plus un double sentiment d'étrangeté, de transport dans le temps, mais aussi d'exotisme au sens profond du terme, c'est-à-dire de sortie vers l'altérité. Et c'était pas ce disque-là qu'on avait, mais alors celui que vous venez de passer est extraordinaire pour le propos de la zoopoétique, ça dit tout.
Ah oui, ça dit tout. Alors c'est la journée particulière d'Anne Simon sur France Inter. En juillet 2000, donc, vous prêtiez attention aux bêtes qui maraudent dans l'œuvre de Marcel Proust. Et puis, vous avez donc, comme vous nous l'avez dit, élargi votre champ de recherche pour débusquer les bestioles qui maraudent encore, mais entre les lignes de la littérature et qui, pendant longtemps, n'ont pas attiré l'attention. Comme si les animaux étaient des objets illégitimes d'études, des objets d'études illégitimes.
Voilà. Comme si, d'une part, le monde pouvait être extérieur au texte, alors que la littérature, elle fait partie du monde. Et d'autre part, comme si les animaux n'étaient pas assez dignes, assez nobles pour entrer dans la ligne de mire, si je puis dire, de la critique littéraire ou philosophique.
Alors le poète Francis Ponge enrageait de cette méconnaissance et je cite un poème que vous reproduisez dans votre livre, qui est magnifique, de Francis Ponge. Il y a d'une part vous, homme, avec vos civilisations, vos journaux, vos artistes, vos poètes, vos passions, sentiments, enfin tout le monde humain de plus en plus révoltant, invivable, injugeable. Et d'autre part, nous, le reste, les muets, la nature muette, les campagnes, les mers et tous les objets et les animaux et les végétaux, pas mal de choses, on le voit, enfin tout le reste. Il le dit magnifiquement là, Francis Ponge.
Tout à fait, il y a un très beau nous d'ailleurs,
oui.
Puisque Ponge, éponge, Ponge cette éponge du monde est inclus dans ce nous.
Alors pour vous, Anne Simon, la zoopoétique s'est associée au souffle, le souffle de la vie ou pas seulement ?
C'est associé évidemment au souffle des vivants, des animés, de la respiration de très nombreux animaux, même si tous ne respirent pas avec des poumons. C'est associé aussi bien sûr au chant et au poème, et on l'a tellement bien entendu avec Ima Sumac, un sumac qui est une véritable antidote à l'idée que le langage serait désincarné. On a très bien vu à quel point cette voix et cette poésie d'Ima Sumac traversait son corps, sa gorge, son larynx, arrivait dans sa bouche, était soufflée, il y avait des changements d'échelle et donc des compressions pulmonaires, etc., qu'on pouvait physiquement ressentir. Et donc le souffle pour moi, c'est aussi donc le souffle des chanteurs, des poètes, etc. C'est les grands souffles du vent, tout ce qui est aérien et atmosphérique, et on ne vit que par cette atmosphère. Et c'est tous ces souffles qui traversent pas seulement les animaux, mais aussi les arbres, les fleuves, les mers. Il suffit de voir à Begmail la mer complètement déchaînée et de relire Jean Santeuil pour voir que le vent est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est à Begmail que Proust découvre ce que c'est que le vent, ce que c'est que la puissance de ce souffle.
Vous reparliez de la chanteuse qu'on a entendue, Ima Sumac, et la façon dont vous la décriviez, vous décriviez son chant, c'était une façon de dire que la langue serait animale. C'est ça que vous pensez, Anne Simon ? Notre
oui.
langue serait animale ?
Je pense que la langue et la parole sont effectivement animales. La langue est animale pour beaucoup de raisons, tout simplement parce qu'elle est incarnée, donc elle passe à travers notre corps, mais aussi parce que notre écriture, et dans de très nombreuses civilisations, vient de pictogrammes qui représentaient les éléments, qui représentaient les animaux. Notre alphabet lui-même est truffé d'animaux. Et donc, moi, il me semble vraiment très important de bien se rendre compte que cette animalité traverse l'écriture, traverse ce qu'on croit être le plus abstrait encore.
Écrire, c'est forcément pousser le langage jusqu'à une certaine limite. Aussi bien la limite qui sépare le langage du silence, que la limite qui sépare le langage de la musique, que la limite qui sépare le langage de quelque chose qui serait quoi. mettons si je dis, le piaulement douloureux. Le piaulement douloureux, tout le monde se dit, bon, bah oui, bah Kafka. Kafka, c'est la métamorphose. Hein. Le gérant qui s'écrie, vous avez entendu, on dirait un animal. Piaulement douloureux de Grégoire, ou bien le peuple des souris, on écrit pour le peuple des souris, pour le peuple des rats qui meurent, en effet. Parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas les hommes qui savent mourir ou qui meurent, c'est les bêtes. Et les hommes, quand ils meurent comme des bêtes. Oui, en ce sens, si l'écrivain, c'est bien celui qui pousse le langage jusqu'à une limite, limite qui sépare le langage de l'animalité, qui sépare le langage du cri, qui sépare le langage du chant, à ce moment-là, il faut dire oui. L'écrivain, il est responsable devant les animaux qui meurent. Écrire, bon, à la lettre, pas pour eux. Encore une fois, je ne vais pas écrire pour mon chat, pour mon chien, mais écrire à la place des animaux qui meurent, etc. C'est porter le langage à cette limite.
Anne Simon, c'était un extrait de la lettre A comme animal de l'abécédaire de Gilles Deleuze et Claire Parnet. Qu'est-ce que veut dire Gilles Deleuze exactement quand il dit « j'écris à la place des bêtes » ?
C'est une question extrêmement difficile. Il dit bien, écrire à la place des bêtes, ça ne veut pas dire se mettre dans leur peau.
Non.
Ça n'est pas possible, évidemment, on peut avoir de l'empathie pour les animaux. Et Deleuze n'avait pas trop d'empathie, d'ailleurs, pour les animaux qu'il appelait les animaux familiers, familiaux, ou pour les chiens qui aboient un peu trop à son gré. C'est se décaler, c'est en soi trouver... des rythmes, des intensités, des allures, des manières de se mouvoir, des manières d'écrire, hein, des manières de lancer son stylo ou de faire aller ses doigts sur le clavier aussi, pour créer des phrases qui vont déloger la langue usuelle, hein, qui vont l'accélérer, qui vont la heurter, qui vont l'adoucir. Et donc, je pense que dans ce rapport au chant, mais aussi au silence, il y a la volonté pour Deleuze de montrer que l'animal, finalement, est un modèle d'écriture.
C'est ça, et j'ai repris, j'ai trouvé d'autres citations. « Écrire comme un rat trace une ligne, comme il tord la queue, comme un oiseau lance un son, comme un félin bouge ou bien dort pesamment. »
Voilà. Donc il faut arriver à retrouver ces lignes de fuite, à retrouver en soi cette pesanteur qu'on va essayer d'exprimer par le langage. Et là, c'est là toute la gageure de cette entreprise. C'était Artaud aussi, Antonin Artaud, qui disait qu'il écrivait pour les analphabètes, pour les enfants, les fous, les animaux, etc. Et c'est à l'intention d'eux, mais c'est aussi en se disant qu'ils ont quelque chose à nous apprendre pour qu'on devienne des philosophes aux aguets, comme disait Deleuze. Hein, il disait des écrivains, des penseurs, des philosophes, qu'ils sont comme les animaux, des êtres aux aguets.
Et là, moi, je pense à Henri Michaux, créateur de monde avec ses mots.
À force de souffrir, je perdis les limites de mon corps et me démesurai irrésistiblement. Je fus toute chose, des fourmis surtout, interminablement, à la file, laborieuse et toutefois hésitante. C'était un mouvement fou, il me fallait toute mon attention. Je m'aperçus bientôt que non seulement j'étais les fourmis, mais aussi leur chemin. Car de friable et poussiéreux qu'il était, il devint dur, et ma souffrance était atroce. Je m'attendais à chaque instant qu'il éclata et fût projeté dans l'espace, mais il tint bon. Je me reposais comme je pouvais sur une autre partie de moi, plus douce. C'était une forêt et le vent l'agitait doucement. Mais vint une tempête et les racines pour résister au vent qui augmentait me forèrent. Ce n'est rien. Mais me crochetèrent si profondément que c'était pire que la mort. Une chute subite de terrain fit qu'une plage entra en moi. C'était une plage de galets. Ça se mit à ruminer dans mon intérieur et ça appelait la mer, la mer. Souvent je devenais boa et quoiqu'un peu gêné par l'allongement, je me préparais à dormir ou bien j'étais bison. Et je me préparais à brouter. Mais bientôt d'une épaule me venait un typhon. Les barques étaient projetées en l'air, les steamers se demandaient s'ils arriveraient au port. L'on n'entendait que des SOS.
C'était un extrait d'un court-métrage d'animation de Barbara Malville et de Benoît Guillaume qui mettent en image le poème « Encore des changements » d'Henri Michaud. Avec Henri Michaud, Anne Simon, la langue n'est plus un obstacle pour accéder à d'autres formes d'existence.
Au contraire. C'est le médium privilégié pour accéder à un état métamorphique, pour le décrire et pour y accéder en même temps. C'est un poème extraordinaire qu'on vient d'entendre ici.
Ah oui.
Encore des changements. Alors on peut se dire c'est bien le changement, mais non, là on voit qu'on est une espèce de litanie qui nous fait part d'une série de métamorphoses qui n'arrêtent pas et qui s'enchaînent les unes sur les autres. Et d'ailleurs dans le poème au niveau typographique c'est formidable parce que Michaud a travaillé l'espace de la page en allant tout le temps à la ligne et donc au niveau même des blancs on sent les moments où il était les fourmis et d'un coup il se rend compte que il est le chemin sur lequel friable, poussiéreux sur lequel déambulent les fourmis. Et en même temps, c'est formidable d'être un chemin. Donc, il y a quand même... C'est un grand poème sur le SOS. Et aujourd'hui, je crois qu'en temps de Covid et de maladie, on est nombreux à pousser ces SOS. On est nombreux et nombreuses à vivre des métamorphoses infernales avec la douleur. Puisque qu'est-ce que c'est que la douleur? C'est quelque chose qui est à la fois... C'est quelque chose qui nous touche au plus intime. Et dont on a l'impression que ça vient de l'extérieur. Et c'est donc quelque chose qu'on vit en soi comme une attaque et qui ne ferait pas partie de nous. Et un virus, c'est ça aussi. La maladie, c'est ça. C'est quelque chose qui vient vous envahir, qui envahit vos propriétés, comme dirait Michaud, les propriétés intérieures, et qui vous déloge de vous-même. Et donc, on voit bien le bison, le boa, il se transforme même à un moment en mer, en galet, en soucoupe, etc. Il va même se transformer à un moment en une baleine et dans celui qui va harponner la baleine. Et donc là, c'est très Michaud, hein, le grand combat, ouais. Où il est toujours en train de lutter contre lui-même. Mais quand on est malade, on a cette sensation en permanence de lutter avec et contre soi. On puise dans ses forces pour essayer de retrouver des forces qui nous sont volées, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Et le langage ici est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que de la maladie naît le poème. C'est-à-dire que ça me semble très important de bien noter que ça a l'air d'être un SOS, et c'est un SOS. Mais dans ce SOS, il y a aussi une espèce de joie, d'intensité, d'énergie. C'est-à-dire que toutes ces métamorphoses qui s'enchaînent les unes sur les autres sont aussi une manière de dire « En nous, il y a la capacité à l'intensité et au renouvellement ».
Donc devenir bête, boa ou bison pour se guérir de sa maladie, ça c'était dans ce poème d'Henri Michaud, mais je pense aussi à Jacques Lacarrière qui dans son roman Le pays sous l'écorce, lui, décide de passer son été sous l'écorce d'un platane. Et en 1980, il était l'invité de Bernard Pivot dans Apostrophe.
Bon, Jacques Lacarrière, alors la première phrase de votre livre, c'est tout simplement, cet été-là, je le passais sous une écorce de platane. Comment fait-on ? Parce que tout de même, vous êtes quand même pas mince comme une feuille à cigarette. Comment faites-vous pour vous glisser sous une écorce de platane ?
Bien, je crois qu'il faut s'oublier. L'idée qu'il y a dans le livre, qui n'est pas vraiment une idée d'ailleurs, qui est plutôt un besoin, c'est que moi j'ai gardé un souvenir épouvantable, mais épouvantable, des fables de La Fontaine. Ces animaux qui parlent comme des hommes, et qui sont des hommes déguisés d'ailleurs, et très mal, puisqu'on reconnaît immédiatement le roi derrière le lion, et des tas de fonctions derrière les autres, m'ont toujours donné envie, non pas de faire des fables à l'envers, mais de faire le contraire, c'est-à-dire, par exemple, si je veux parler avec un chien, au lieu de faire parler le chien comme un homme, d'apprendre à aboyer.
Bon, parlons de quelques-unes de ces aventures. La grue vous apprend le vent et le hibou vous apprend la nuit.
Et oui, parce que si vous voulez connaître la nuit, il faut vivre avec un animal nocturne. Et le hibou, pour lui, la nuit est son domaine. On pourrait raconter sa vie. Si un hibou écrivait sa biographie, il pourrait dire « la nuit est mon domaine ». Et donc, je prends des leçons auprès de lui pour savoir toutes les heures de la nuit, toutes les densités de la nuit, à voir la nuit, à distinguer les nuits.
Et puis vous avez un grand chagrin d'amour avec un criquet femelle, dans un buisson...
Oui, fatalement, parce que tout en essayant d'être les autres, je n'y arrive jamais tout à fait, et il y a toujours un petit grain d'humanité qui m'empêche d'être véritablement un loir, ou une anguille, ou une coccinelle, ou une méduse.
Anne Simon, vous connaissiez cette archive de Jacques Lacarrière interviewé par Bernard Pivot
Je ne la connaissais pas, je suis extrêmement émue parce que j'ai rencontré Jacques Lacarrière. Et donc j'étais très émue et très heureuse de l'entendre parler de la grue et du vent, du hibou et de la nuit. Alors pourquoi est-ce que j'adore Le pays sous l'écorce de Jacques Lacarrière? Parce que c'est un récit inclassable, c'est le récit d'un homme endormi, d'un homme qui rêve, mais on a l'impression qu'on est vraiment passé, comme dans Lewis Carroll, de l'autre côté. Voilà. Et puis, c'est quelqu'un qui a un art incroyable d'utiliser l'histoire naturelle, comme de nombreux auteurs et autrices contemporains. Il utilise l'histoire naturelle comme un réservoir de mots rares. Il utilise l'histoire naturelle pour en faire des scènes d'amour ou des scènes d'épouvante avec, par exemple, une épère. À un moment, le narrateur est pris dans une toile d'araignée. Et pendant 3 jours, donc on pense à Lazare, pendant 3 jours, il est complètement hypnotisé, abasourdi par ce qui lui arrive. Et puis il finit par se réveiller et il commence à danser la langue, dit-il, avec l'épère. Donc il est persuadé qu'il est dans un ballet, en train de dialoguer avec cette épère qu'il ne comprend pas très très bien, parce qu'il n'a pas de pédipalpe, il n'a pas de, comme il dit, des mandibules, il n'a pas tout ce qui va avec les étranges animaux qu'il rencontre. Et il se rend compte à un moment qu'en fait, cette épère est en train de manipuler les fils de la toile d'araignée pour pouvoir le dévorer. Et on a une autre scène qui vaut le détour, donc vraiment, je le dis. C'est avec une femelle paon de nuit qui s'appelle Aurélia. C'est peut-être un hommage à Gérard de Nerval. Et avec cette femelle de paon de nuit, eh bien, on a la description d'un acte d'amour érotique, explicite. Et donc, voilà, on est la zoopoétique, c'est aussi la zoophilie. En tout cas, chez Jacques Lacarrière.
Et Jacques Lacarrière, en exergue de son roman du Le pays sous l'écorce, reprenait un enseignement zen qui dit « La seule façon de rejoindre la nature profonde de l'homme, c'est le non-humain. »
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée, élevé en plein air 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent. Électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728120. Je t'aime, je pense à toi.
Catherine et son amour de poulet numéro 728120. Anne Simon, vous connaissiez cette chanson?
Je ne connaissais pas cette chanson, Zoé. C'est vous qui me l'avez fait découvrir, hein, alors que j'en connaissais plein d'autres de Philippe Catherine. Donc, j'adore Philippe Catherine. Je trouve qu'il a la banane. Je suis fan des dictateurs et de maman, évidemment. Donc, voilà, allez toutes écouter toutes ces chansons dont je viens de parler.
Anne Simon, dans votre recherche zoopoétique, est-ce que vous êtes aussi intéressée à la question animale, à la question de l'élevage?
Oui, c'est une très grande, c'est même, je crois, c'est la troisième partie de mon livre où je m'interroge sur la mécanisation du vivant et tout ce qu'on fait aujourd'hui en transformant les animaux en objets dont on peut faire tout et n'importe quoi, alors que chaque animal est à chaque fois un individu à part entière. Donc, ce qui est intéressant dans la chanson de Philippe Catherine, il met bien en exergue la dissonance qu'on a entre le fait d'aimer manger un poulet et de se rendre compte justement que ce poulet a une vie propre. Et c'est exactement ce qui se passe au début de La Recherche du Temps Perdu, quand le narrateur voit sa servante couper le cou d'un poulet qui oppose une résistance bien naturelle, nous dit Proust, et qui se débat. La bonne le traite. Elle traite le poulet de sale bête. Et le narrateur donc découvre les cruautés de l'arrière-cuisine, les basses œuvres de sa servante. Et en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'adorer, comme Philippe Catherine, le poulet qu'il déguste ensuite. Alors, ce qui me semble important, c'est que vient faire la littérature, finalement, j'allais dire, dans les abattoirs et surtout dans l'élevage industriel.
Oui.
Eh bien, elle vient rétablir la justice. Elle vient d'abord dans des endroits qui sont devenus invisibles depuis le 19e siècle, époque où on a relégué les abattoirs pour des raisons, entre autres, d'hygiène, mais pas seulement. On a relégué les abattoirs et les élevages, évidemment, en dehors des villes. Et les plus grands écrivains, qui sont souvent des écrivains humanistes, comme Léon Tolstoï, comme Émile Zola, Alfred Dublin, Upton Sinclair, Georges Duhamel, qui sont des immenses écrivains, eh ben, se sont confrontés à l'élevage intensif et à la démesure des abattoirs et à la démesure des morts animales.
Alors aujourd'hui, vous avez remarqué que de plus en plus d'écrivains dans la littérature contemporaine donnent l'alerte et parlent des bêtes à vif, mais montrent aussi ce que ça fait aux hommes de transformer les animaux en aliments. Et là, vous citez un roman que je ne connaissais pas, qui s'appelle « La part animale » d'Yves Bichet, qui se passe dans un élevage intensif de dindons. Et il se trouve que France Culture a réalisé une dramatique à partir de ce roman.
Bon, comme tu vois, il y a un bâtiment des femelles et celui des mâles, soigneusement séparés l'un de l'autre. On va commencer par les dindons, c'est moins difficile.
Moins difficile ?
Ah, tu comprendras plus tard. Il y a trois règles, Étienne, que tu dois jamais oublier. Les commandements du branleur. D'abord, ne t'avise pas de pénétrer dans l'isolation sans ton bleu de travail. Les dindons ne connaissent que cette couleur. Ils n'en supporteraient pas une autre. Cela sèmerait la zizanie. Ensuite, ne quitte jamais ton flacon des yeux. Ton flacon est la pipette d'aspiration. La semence des Douglas vaut de l'or. Ne la laisse pas à leur merci. Ils s'en repaîtraient comme des goujats. Enfin, n'oublie jamais que les mâles ont peur de toi, ils te craignent. Naturellement, tu es là pour leur exciter le fondement, mais pas à la façon des dindes, à la trique, Étienne. Tu es leur chef, leur bourreau. Ils doivent te vénérer, même dans le plaisir, compris ?
J'espère.
On rentre, doucement.
Alors ça se passe dans un élevage intensif de dindons et il se trouve que les mâles ont été génétiquement formatés par l'industrie agroalimentaire et sont donc devenus incapables de féconder les femelles qui sont trop fragiles pour supporter leur poids. Et donc il faut un homme pour les branler et pour récupérer leurs semences. C'est fou.
Oui, c'est fou. C'est une double dénaturation. Dénaturation de l'humain, dont le métier est, comme vous l'avez dit, de branler des dindons, et chimérisation des animaux, qu'on transforme, non pas dans ces belles chimères mythologiques que nous avaient léguées soit la Mésopotamie, soit la mythologie grecque, évidemment, mais qu'on chimérise dans une souffrance absolue. L'objectif, c'est de produire du muscle, de pas produire trop de gras, voilà. Et donc, elles ont des pattes sur lesquelles elles peuvent pas se tenir. Et de très nombreux écrivains et écrivaines reviennent là-dessus. Tout le côté mythologique, fantastique, extraordinaire, notre goût pour les métamorphoses, pour même les super-héros, etc., est là transformé en dimension infernale. C'est vraiment la pente noire de l'humain et de nos sociétés. C'en est au point que cette opération de masturbation s'appelle le cloaque, la vidange. mensonge. Enfin, il y a des mots comme ça qui sont horribles et que n'invente pas Yves Bichet, parce que pendant 7-8 ans, il a travaillé dans un élevage industriel et donc il a écrit, je crois que c'était en 1994, il a écrit ensuite La part animale. Et vous voyez bien que dans ce titre, il y a la part animale de l'humain qui est perdue au profit de sa part bestiale, et il n'y a que les humains pour être bestiaux. Et puis, il y a toute cette part animale des animaux qui sont comparés à des parapluies, qui ont un label, une marque, ils s'appellent les Douglas au pluriel, avec un touquet de plumasse accroché à leur derrière pour être mis en barquette au moment de Noël.
Jusqu'à 15h, c'est donc votre journée particulière, Anne Simon, donc spécialiste de zoopoétique. En juillet 2000, donc une citation de Marcel Proust vous a mis la puce à l'oreille et vous avez décidé de vous intéresser d'abord aux animaux qui maraudent entre les lignes de la recherche du temps perdu, puis généralement dans la littérature, on vient le voir. Mais il se trouve que cette même année 2000, Élisabeth de Fontenay, philosophe de la cause animale, donnait une conférence à l'Université de tous les savoirs sur la cruauté et elle débutait par ces mots.
Je voudrais mettre cette conférence du lundi 4 décembre 2000 sous la surveillance d'un texte du prix Nobel 1981, Elias Canetti. Ce texte est extrait de l'ouvrage intitulé « Le territoire de l'homme ». Et je vous le lis. « Animaux, ô chers aimés, ô cruels, ô mourants, en train de vous débattre, engloutis, digérés et assimilés, prédateurs et pourrissants dans votre sang, en fuite, rassemblés, solitaires, entrevus, débusqués, traqués, rompus, incréés, privés de Dieu, abandonnés dans une vie trompeuse, ainsi que des enfants trouvés. »
C'était donc Élisabeth de Fontenay, Anne Simon, qui citait Elias Canetti. Ces deux intellectuels vous accompagnent dans votre recherche zoopoétique. Aussi bien Elias Canetti que Élisabeth de Fontenay, ce sont des personnes importantes.
Ce sont effectivement des personnes extrêmement importantes pour moi, comme l'a été aussi Jean-Christophe Bailly en 2007 avec Le versant animal. C'est fondamental d'avoir des gens qui vous ouvrent la voie. Et Fontenay m'a ouvert, Élisabeth de Fontenay m'a ouvert la voie quand elle a publié donc en 1998 Le silence des bêtes. Le début m'a totalement emportée. Parce que elle a légitimé pour moi la possibilité pour une littéraire de travailler, elle était philosophe, pour une littéraire que je suis, de travailler sur la question animale, puisque les premiers mots reviennent sur la question de la tendresse, sur la question de la vulnérabilité, sur la question de l'extermination qu'on fait aux humains, mais elle prend bien soin de ne pas superposer et confondre les abattoirs et les camps d'extermination. Donc je dirais qu'il y avait tout, il y avait la prudence, il y avait aussi toute cette tendresse qu'elle avait pour les humains qui sont vacants, qui sont dépourvus de parole, mais certainement pas de sensibilité. Et donc, d'une part, Élisabeth de Fontenay m'a beaucoup accompagnée. Je pense que c'est une très grande dame de cœur. Et puis, il y avait aussi Elias Canetti. Qu'est-ce que c'est que ce territoire de l'homme? Ce sont des notes qu'il commence à prendre, imaginez-vous, en 1943, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est très, très étrange, il écrit en langue allemande, alors qu'il a un nombre de nationalités, je dirais, incroyable. Il a fui... Voilà. Et il écrit en langue allemande, au milieu de la guerre, des textes qui, évidemment, s'érigent contre la violence humaine et contre tout ce qui est en train de se dérouler. Et en même temps, où il prend le parti des animaux, comme dirait Jean-Christophe Bailly, et où il s'émeut de l'enfer qui est fait aux bêtes. Il y a un autre passage où il espère que les moutons, les vaches, plus encore que les taureaux, un jour vont se révolter et viendront semer la pagaille chez les humains et se venger.
Alors tout à l'heure, vous parliez de tout un pan de la littérature qui s'intéresse à l'agroalimentaire, à l'élevage, aux élevages intensifs. Mais il y a aussi tout un pan de la philosophie et de la littérature actuelle qui fait sortir les animaux du silence ou qui fait entendre le silence des animaux, qui reviennent aux bêtes de chair, de plumes. Ça existe aussi.
Oui,
en ce moment. En même temps que l'agroalimentaire qu'on vient de voir avec la part animale, on a un autre pan tout à fait différent qui là revient à redonner chair, à redonner de la sensibilité, dans la trace d'Elisabeth de Fontenay et d'Elias Canetti, aux animaux.
Oui, tout à fait. Donc, je dirais que c'est même deux courants qui s'interpénètrent, hein, dans la mesure où Isabelle Sorrente, qui travaille sur l'élevage industriel, ou Gilles Bartholins, qui a écrit un roman qui s'appelle 2,2 kg, qui fait référence au poids du poulet au moment de son abattage, essaye justement de redonner aux animaux toute cette chair et ce désir de liberté auquel ils devraient avoir droit. Et puis, on a une littérature beaucoup plus heureuse, beaucoup plus joyeuse, qui est comique aussi très souvent. Je pense à Béatrice Beck, je pense à Marie Darieussecq, je pense à Henrietta Rosines, à Éric Chevillard, à Antoine Volodine, qui nous donne, Antoine Volodine qu'on croit toujours être un écrivain extrêmement sombre et apocalyptique, ce qu'il est, mais alors en même temps il a une fantaisie et un humour incroyable. Tous ces écrivains que j'ai nommés, mais bien d'autres aussi, tentent de nous montrer à quel point les animaux peuvent nous apporter du bonheur, tout simplement.
Et on pense à une autrice que vous avez citée, Béatrice Beck, qui, elle, a écrit sur son chat. Et je lis un tout petit extrait.
Avec plaisir.
« Dors pelotonné contre ma tête. Adore être avec moi-même. Quand levé, je n'y suis plus. Aime beaucoup aussi être ailleurs. Aime beaucoup être. » Et un peu plus loin, « Chacun de ces éveils est une aurore, une résurrection. Repart à zéro, rejoue, pousse, repousse un bouchon, avance de profil, écrevisse guerrière, judoka, ceinture noire. » Très joli, hein. J'ai découvert grâce à vous, Anne-Simon.
Ah oui, alors vraiment, je recommande la lecture de L'enfant chat de Béatrice Beck, qui a été la secrétaire de Gide et qui a eu une vie incroyable, assez miséreuse pendant un certain temps. Cette femme était extrêmement sensible et on voit très bien comment le langage qu'elle emploie, elle essaye de redonner au chat ou à la petite chatte sa dimension animale, par exemple, en notant les sujets « dort pelotonné »,« aime beaucoup », etc. Et puis « aime beaucoup être », c'est magnifique, « aime » et « être », ça consonne ou ça se vocalise de la même façon. Je trouve ça merveilleux.
Et elle l'appelle « S », son chat.
Oui, elle s'appelle Soisic, mais elle l'appelle « S ». « S » peut-être comme un petit serpent, « S » comme aussi un sujet un peu incomplet, un sujet animal qui n'est pas un sujet humain, mais c'est pas parce que c'est un sujet incomplet que ce n'est pas un sujet. Watching the surface on the burning gap. A few times I nearly packed up my bags. You said, baby, please don't. Bathing in
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
En juillet 2000, Anne Simon, peut-être avez-vous entendu en vous promenant sur le chemin côtier de Begmail un titre de la compilation des plus grands succès de Joe Dassin, certifié disque de platine en 2000.
Non mais mon laisse des mosquitos, non mais mon laisse des mosquitos, non mais mon laisse des mosquitos, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique, ne sois pas antipathique, ne me pique pas. Moustique, mon
Anne Simon, le moustique de Joe Dassin.
Ah, c'est... Oui, bien sûr que je me souviens du moustique de Joe Dassin et je me souviens sans doute de toute l'œuvre de Joe Dassin.
C'est vrai ?
Encore aujourd'hui, je continue à écouter sans aucun complexe Joe Dassin, Dave. Voilà, et puis...
Mais ce moustique, vous le connaissez ?
Mais oui, je connaissais ce moustique, bien sûr. Hein.
Avec ses petites phrases en espagnol.
Bah oui, et ce qui est extraordinaire, là aussi, on a l'impression... C'est de la variété, mais la variété, pour qu'elle soit... qu'elle dure comme ça pendant des décennies et qu'on aime encore après l'avoir entendu il y a si longtemps, c'est parce que c'est de la poésie. Là, les sonorités, le moustique, la musique antipathique, pique, etc. Ils s'amusent avec le fait qu'un moustique, ça pique, et c'est à partir de ça qu'il crée sa chanson. Elle est géniale, mais Joe Dassin était extraordinaire. Hein.
Alors Anne Simon, donc vous êtes une spécialiste de Marcel Proust, de Joe Dassin, de Dev.
Oui, j'ai fait une interview sur Dev et Proust, sur son rapport à Proust, puisqu'il a fait une chanson qui s'appelait Du côté de chez Swann.
Ah oui.
J'irais bien refaire un tour, etc. Et Dev est extraordinaire, lui aussi. Vraiment, à la fois très savant et très modeste.
Bon, et il se trouve que vous êtes aussi une spécialiste de Romain Gary, Premier cadeau.
Monsieur et cher éléphant, vous vous demanderez sans doute en lisant cette lettre ce qui a pu inciter à l'écrire un spécimen zoologique si profondément soucieux de l'avenir de sa propre espèce. L'instinct de conservation. Tel est bien sûr ce motif. Depuis fort longtemps déjà, j'ai le sentiment que nos destins sont liés. En ces jours périlleux d'équilibre par la terreur, de massacres et de calculs savants sur le nombre d'humains qui survivront à un holocauste nucléaire, il n'est que trop naturel que mes pensées se tournent vers vous. À mes yeux, monsieur et cher éléphant, vous représentez à la perfection tout ce qui est aujourd'hui menacé d'extinction au nom du progrès, de l'efficacité, du matérialisme intégral, d'une idéologie ou même de la raison. Car un certain usage abstrait et inhumain de la raison et de la logique se fait de plus en plus le complice de notre folie meurtrière. Il semble évident aujourd'hui que nous nous sommes comportés tout simplement envers d'autres espèces, et la vôtre en particulier, comme nous sommes sur le point de le faire envers nous-mêmes.
Pater, pater. Pater
Visionnaire Romain Gary, puisque cette lettre a été publiée en 1968 dans le Figaro littéraire, c'est la lettre à l'éléphant. C'est un texte que vous aimez beaucoup, Anne Simon.
Oui, oui, c'est vraiment un texte extraordinaire parce que une lettre, ça veut dire qu'il s'adresse à l'éléphant. Donc, que l'éléphant est un interlocuteur possible, déjà. Ça me semble fondamental. C'est la première forme du respect. Et puis, bien sûr, il y a toute cette idée de destin lié, c'est-à-dire que, comme le dit Gary aussi ailleurs, il faut une marge animale, absolument. Si les humains, nous restons sans animaux et sans éléphants qui sont encombrants, comme le dit Romain Gary, autour de nous, eh bien, nous allons mourir enfermés dans notre propre espèce. Parce que le propre, il n'y a rien de pire, hein, je dirais. Et Gary le savait d'autant plus que toute sa famille paternelle a été exterminée dans la Shoah par balle. Et que donc, il était extrêmement attentif à ce qu'on fait aux vivants, en général, et aux humains, quand on les humanise.
Bon, et là, on ne parlera pas de toute la recherche que vous avez effectuée sur l'œuvre de Céline et l'importance aussi des animaux chez Céline et de la façon dont on pouvait, par exemple, les comparer à des poux. C'est encore toute une autre histoire. Alors, un dernier cadeau pour clore cette émission, Anne Simon, un philosophe qui vous accompagne, qui accompagne votre pensée, c'est Jacques Derrida.
Ce qu'on met au singulier, quand on parle de l'animal, ne répond à aucune réalité. Il n'y a pas quelque chose comme l'animal. Et déjà, le fait de ranger tous les vivants non humains sous la catégorie homogène et universelle de l'animal est une absurdité philosophique et une violence, et le début de la violence. Donc, il n'y a pas l'animal. Il y a le mot animal, je propose de parler de l'animaux, ce qu'on appelle l'animaux, c'est-à-dire ce mot d'animal sous lequel on classe absolument toutes les organisations du vivant qui ne sont pas nous. Eh bien, ce rapport au vivant non humain a une énorme histoire. Et avant Descartes et avant le Moyen-Âge, encore chez Montaigne, ce rapport n'est pas empreint de la violence objectivante et cruelle qui sera la marque de la modernité. Chez les Grecs, le rapport est encore différent. Donc j'essaie de donner à penser la complexité de cette histoire, de notre rapport aux animaux, à ce qu'on appelle l'animal, et par conséquent à ce que nous appelons nous les hommes.
Anne Simon, alors les animaux AUX n'existent pas, il n'existerait que des animaux MOT ?
Oui, alors disons qu'il y a les deux. Il y a les animaux MAUX au pluriel, ce que récuse Derrida, c'est l'idée qu'on emploie l'animal au singulier. D'un côté, il y aurait l'humain, l'espèce humaine, hein, qui ne serait pas animal d'ailleurs.
D'accord.
Et de l'autre côté, vous voyez, l'animal qui irait, comme le dit Derrida, de la fourmi à l'éléphant, en passant par l'échidnée, le raton laveur et le lombric. donc, il y a vraiment l'idée chez lui de pluraliser les animaux et aussi de les pluraliser dans la langue. Et moi, c'est pour ça que j'emploie souvent le terme animaux, A-N-I-M-O-T-S, et que j'ai fait un carnet de zoopoétique qui porte ce nom, parce que je veux relier le pluriel et la langue pour montrer que la littérature, c'est vraiment ce qui permet de célébrer la grâce animale, sa diversité, et puis tout simplement, ça nous donne beaucoup de bonheur.
Merci Anne Simon d'avoir passé cette heure avec nous. Votre livre, fruit de 20 ans de travail, faut le dire, oui, parce que c'est un livre, un gros livre, un livre important, Une bête entre les lignes, essai de zoopoétique qui est publié aux éditions Wild Project. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Zoé Varier.
On va se plonger dans Proust et d'autres. C'était une journée particulière. Une émission préparée par Hugo Combes, programmation musicale Djoubaka, à la réalisation Flora Bernard et à la technique aujourd'hui, c'était Benjamin Troncin. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Passez un bon week-end.